Mohamed Ali Amir Moïsi, bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonjour.
C'est vraiment une grande joie de vous recevoir et de vous accueillir à cette antenne. Je ne verse pas facilement dans l'hyperbole, mais je le dis pour nos amis auditeurs, vous êtes un savantissime en ce qui concerne les questions islamologiques. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et vous êtes président du conseil scientifique de l'Institut français d'islamologie. Et avec vous, il est important de temps à autre de voir l'état de l'art quant à la recherche scientifique à propos de l'islam. L'islam, une question épineuse, centrale, cruciale, obsédante pour certains, non sans raison sur certains points. Mais tout cela a donné lieu, et notamment en France, un peu partout de par le monde, mais en France, à des études objectives, rigoureuses, scientifiques. Et vous faites partie de ces protagonistes qui étudient la chose islamique ou le fait islamique. Où en sommes-nous ?
D'abord, un grand merci, Le Bencher, de votre invitation, que j'accepte toujours avec grande joie. J'aime beaucoup votre émission. Alors, effectivement, nous venons de publier avec l'Institut français d'islamologie le premier volume d'une collection créée aux éditions du CERF qui s'appelle Bibliothèque de l'Institut français d'islamologie. Et ce premier volume s'appelle L'islam et l'examen scientifique, une quête renouvelée. Alors, l'Institut français d'islamologie est né de la volonté du président de la République après son discours du mois d'octobre 2020 au Mureaux. Donc il a voulu créer un institut qui s'occuperait de l'étude scientifique de l'islam. Et donc le 15 juin 2023, nous avons eu au Grand Salon de la Sorbonne, sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, une journée d'inauguration, donc qui a duré toute la journée et qui s'est terminée par une série de 4 conférences. Et donc ce premier volume, qui est un petit volume, un volume assez volumineux, mais qui regroupe ces 4 conférences inaugurales, donc données par quand même des grands noms de l'islamologie française et internationale, donc Christian Robin, archéologue de l'Arabie pré-islamique, François Desroches, professeur au Collège de France, spécialiste du Coran, Madame Samuela Pagani, donc qui est professeur à l'université de Lecce en Italie, qui nous a parlé de l'étude du soufisme de la mystique musulmane en France, et puis Dominique Avon, mon collègue de l'École pratique de hautes études, qui nous a parlé justement de l'islamologie. Donc ce volume regroupe ces 4 conférences. Et donc, l'objectif de l'Institut français d'islamologie, dont j'ai l'honneur d'être le président du conseil scientifique, c'est effectivement de promouvoir cette étude universitaire, académique, scientifique de l'islam en tant que religion et système de pensée, et donc promouvoir de plusieurs façons, c'est-à-dire la création des postes à l'université. Je crois qu'en 2 ans et quelques mois, nous avons eu beaucoup de résultats positifs, c'est-à-dire nous avons créé 9 postes, ce qui n'a jamais été le cas dans l'université française. 9 postes, 2 postes de professeurs et 7 postes de maître de conférence. Nous avons financé de très beaux projets de recherche. Nous avons donné des bourses de toutes sortes à un certain nombre d'étudiants. Nous avons aidé à la publication d'ouvrages islamologiques, etc. Et puis, il y a également, plus récemment, nous avons des programmes de formation de ce qu'on appelle les acteurs de l'islam. Donc, il y a toutes ces dimensions dans les travaux de l'IFI. Et donc, Où en est-on? C'est que, effectivement, nous essayons de développer au niveau national et international l'islamologie proprement française, qui a ses propres caractéristiques.
Alors, les Français sont lassés, harassés, fatigués d'être toujours comparés à leurs voisins, notamment allemands, dans tous les domaines. Mais j'ose poser la question, on est aussi l'état de l'islamologie outre-Rhin, un programme, pour ne citer que quelque chose de très simple, comme Corpus Coranicum à l'Académie de Berlin, Brandebourg, a l'air et même connaît un engouement et un intérêt certain, financé y compris sur des deniers publics allemands. Vous pensez qu'il y a lieu de rattraper cela ou la vocation de l'Institut français d'islamologie, c'est de faire quelque chose de similaire?
Écoutez, oui, c'est-à-dire, bon, effectivement, je connais bien et je fais partie même des collaborateurs de ce projet allemand qui est sous l'égide de Mme Angelika Neuwirth. Mais je pense que nous avons d'autres projets et nous avons d'autres points forts, y compris sur l'étude du Coran. Hein. Donc j'ai parlé de François Desroches qui faisait partie des quatre conférenciers et qui est le détenteur de la chaire sur le Coran au Collège de France, ce qui n'est pas rien. Et puis, nous avons également des projets d'envergure et des publications d'envergure. Vous m'avez vous-même reçu ici même après la publication du Coran des historiens, hein, paru en 2019, en 3 volumes et près de 4000 pages. Donc, les études coraniques françaises n'ont pas à rougir, hein, je pense, devant nos voisins. Et puis, je pense que ce qui est important, et justement, Samuel Apagani en parle longuement dans sa contribution à ce volume « L'islam et l'examen scientifique », je pense que l'islamologie française a quelque chose de particulier qui est assez unique et qui est justement l'étude du contenu des textes, des doctrines, des pensées. C'est ce qu'on rencontre peu dans les autres pays, par exemple chez les anglo-saxons ou chez les allemands, qui s'occupent beaucoup, je dirais des contenants, des sources même, de leur transmission, de leur formation, des chaînes de transmetteurs, des choses de ce genre. Mais les Français, depuis toujours, hein, surtout depuis le siècle dernier, s'occupent du contenu. C'est-à-dire, Samuel Apagani parle de trois grands spécialistes de la mystique musulmane, qui étaient Louis Massignon, Henri Corbin et Michel Chodkiewicz. Et on rencontre, je veux dire, rarement dans d'autres pays, d'abord des études aussi rigoureuses et des réflexions aussi subtiles sur le contenu des écrits mystiques islamiques. Et donc là, Samuel Apagani en parle aussi, mais bon, je connais un peu quand même ce qui se passe dans d'autres pays et les collègues appartenant à d'autres pays. Ça fait un peu la particularité de la France et qui est considéré comme quelque chose d'assez audacieux, je dirais, de la part de nos collègues étrangers, c'est-à-dire essayer vraiment de confronter, je veux dire, ce contenu qui est extrêmement profond, extrêmement dense, extrêmement intense. Bon, là, j'ai parlé de la mystique, mais c'est la même chose, je dirais, de la théologie, de l'exégèse coranique, du droit. Et donc, je pense ce qui fait personnellement, pour moi, l'honneur de l'islamologie française, c'est cette tentative, ces recherches, parfois extrêmement artisanales, parce que le contenu de ces textes ne sont pas toujours faciles, pour atteindre, en quelque sorte, la profondeur de la pensée qui fait l'honneur et la subtilité de la culture islamique.
Pour toutes les disciplines et quel que soit le savoir, il y a chez les chercheurs et ceux qui suivent cela avec intérêt, un double écueil à éviter. Le premier remontant à l'idée platonicienne du philosophe roi qu'on retrouve même chez Al-Farabi, auquel cas il faut soumettre la société tout entière à la connaissance du sachant, du savant, d'un côté, et l'autre écueil, c'est parfois, ça a pu se passer sous des dictatures, soumettre le savoir aux idéologies. Là, l'intérêt de l'islamologie fondamentale, c'est d'éviter, bien entendu, ces deux extrémas et ces deux écueils, et c'est l'intérêt, c'est d'avoir une compréhension intelligente, rationnelle, rigoureuse du fait islamique pour en finir avec les impéries, les arguties, les idioties, les inepties débitées à longueur de journée, notamment sur certains plateaux de télévision.
Je le pense. D'abord, je crois, c'est une conviction profonde pour moi, que l'humilité, la modestie doivent faire partie des vertus cardinales du chercheur, de n'importe quel chercheur dans n'importe quel domaine scientifique, non pas seulement pour des raisons morales, mais pour des raisons objectives. C'est-à-dire que la masse des choses que nous ne connaissons pas est infiniment supérieure à ce que l'on connaît. Donc ça doit donner notre humilité qui, de fait, nous éloigne de, justement, de cette suprématie des sachants. Par ailleurs, effectivement, ce dont vous parlez, c'est un peu ce qui a toujours posé problème dans l'histoire des religions. C'est-à-dire, en quelque sorte, le pouvoir soit des théologiens, soit des souverains. Et donc soumettre la religion à ces deux pouvoirs, c'est en quelque sorte, c'est-à-dire ce sont les deux pouvoirs qui, pendant tout l'âge classique, pratiquement dans toutes les cultures, ont en quelque sorte ont permis l'instrumentalisation du religieux. C'est-à-dire que ceux qui se présentaient en quelque sorte comme les sachants ou les puissants, le résultat, c'était soit la divinisation du pouvoir, soit, je dirais, la politisation de Dieu. Et donc, effectivement, l'historien doit avoir l'objectif, donc accompagné de sa modestie, d'éviter ces deux écueils, et donc de rester sur une ligne de crête, qui est la ligne de crête, justement, du regard respectueux, mais en même temps froid, sur les choses de la foi. Et puis, effectivement, d'essayer de découvrir l'altérité profonde de l'autre, en ce qui concerne, par exemple, ici, notre problème, de l'islam et des musulmans. Et donc ça se fait, je pense, à travers peut-être les trois questions de base que chaque historien doit se poser, c'est-à-dire quand, où, qui. Quand, c'est-à-dire l'histoire, où, c'est-à-dire la géographie. Qui, c'est-à-dire quelle société, quelle communauté. Et donc là, je pense que ce sont des frontières qui limitent, en quelque sorte, le domaine et l'ampleur éventuellement d'une certaine ambition mal placée de l'historien, et lui permet effectivement de répondre de manière rigoureuse, mais en même temps modeste, à des questions que vous voulez dire qui agitent notre société depuis un certain nombre de temps et qui fait que effectivement on arrive parfois à des discours qui disent n'importe quoi.
Oui. Pour revenir à vos trois questions fondamentales et celle de l'historien et l'histoire comme une sorte d'anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de culture et de pensée, et aussi comme une archéologie du temps présent. Maintenant, l'histoire dite matérielle a son importance. la numismatique, l'archéologie, l'épigraphie, la papyrologie, la codicologie, tout cela concourt à ce travail de l'historien et essaye de répondre à ces trois questions, quand, où, qui, et notamment pour les sociétés majoritairement musulmanes.
Absolument. Et en ce qui concerne, pour revenir par exemple à un domaine d'études extrêmement important pour le Coran, et puis le milieu natif du Coran, ce qui se passe en Arabie, donc au moment de la naissance de la mission prophétique de Mohammed et la naissance du Coran, là justement, les apports des sciences matérielles ont été absolument fondamentaux, avec l'archéologie, avec l'épigraphie, avec la codicologie, avec la paléographie, etc. C'est-à-dire que, et puis depuis quand même plus d'une vingtaine d'années, depuis quelques décennies, il y a une collaboration extrêmement étroite entre ceux qui travaillent sur les sources écrites et ceux qui travaillent sur les sources non écrites. Donc il y a des courants de pensée et puis des groupes de travail, par exemple, sur le Coran, où collaborent ensemble les spécialistes du texte du Coran, les spécialistes de la théologie coranique, mais également les archéologues, les épigraphistes, les codicologues, et puis également, ce qui est important, moi je pense, avec les apports de l'histoire matérielle, les spécialistes des autres domaines, c'est-à-dire les spécialistes du judaïsme, du christianisme, du manichéisme, etc. C'est-à-dire que maintenant, nous savons que, contrairement à ce que disent peut-être les écrits apologétiques musulmans sur le passé de l'Arabie, sur l'Arabie pré-islamique est loin d'être une terre d'ignorance et de ténèbres. C'est un endroit où circulent et se croisent toutes les religions, surtout les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, dans leurs différentes formes. Et donc, ça ouvre des perspectives absolument passionnantes et complètement inattendues pour l'étude de la naissance de l'islam.
Oui, il y a même cette idée, comme en gros, et mutatis mutandis, on parlait du siècle de Périclès, ou le siècle d'Averroès, ou le siècle de Voltaire, etc. Il y a cette idée de dire, ne serait-ce que sur le plan purement historique, d'avoir une période qui est en gros délimitée par ce qu'on appelle le siècle de Mohammed dans la péninsule arabique, qui partirait de 570 à 660-70, globalement de la naissance présumée du futur prophète de l'islam jusqu'à la dynastie Omeyyade, on est sur 90 ans en gros. C'est même si le personnage, pour reprendre une de vos formules, n'est qu'une ombre dans un nuage d'encens d'un point de vue purement rigoureux, à côté de la pléthore des curricula vitae qui lui sont consacrés par la tradition islamique classique, ce regain d'intérêt pour cette période-là et pour la péninsule arabique, avec l'ouverture actuelle pour les fouilles archéologiques, met en avant l'intérêt pour l'islamologie et surtout pour le milieu natif et la naissance de l'islam.
Absolument. C'est un tournant, je dirais, dans l'histoire du monde. Alors, effectivement, sur le Mohammed historique, le Mahomet historique, nous connaissons peu de choses. Nous n'avons que des représentations. Mais en même temps, maintenant, je crois que c'est absolument établi. Ce personnage a existé. Et en tant que prophète, c'est-à-dire il était perçu, il se percevait lui-même et il était perçu par son entourage comme étant chargé d'une mission prophétique, et il a joué un rôle extrêmement important dans ce qu'on pourrait appeler maintenant peut-être la fin de l'Antiquité tardive. Et puis ce qui s'est passé après également a changé en quelque sorte la face du monde, ce sont les conquêtes arabes qui sont arrivées très tôt après la mort de Mohammed. Et donc, ils sont allés très vite, et la naissance d'un nouvel empire arabe Et donc, le changement des paradigmes, la fin de la, je dirais, de l'empire iranien, et puis la perte des terres africaines et méridionales de la Byzance, tout cela a fait que, effectivement, nous avons affaire, on peut parler du temps de Mahomet et de la naissance de l'islam. Et je crois que ce qui est important, et qui est maintenant, je pense, établi parmi les universitaires et les chercheurs, on considère véritablement que le résultat de ce phénomène, qui est le Coran, peut être considéré comme le dernier grand livre de l'Antiquité tardive. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça change complètement notre vision des choses, parce que qu'est-ce que c'est que l'Antiquité tardive, disons, qui va à peu près, on n'a pas des frontières temporelles très exactes, mais disons du deuxième siècle, premier deuxième siècle de notre ère, de l'ère chrétienne, jusqu'au septième, huitième siècle. Et c'est un temps qui est marqué par deux choses, par la domination en quelque sorte de la pensée hellénique, et puis par la domination également du christianisme, et du christianisme hellénisé. Et donc si on dit que, en quelque sorte, le Coran appartient à cette période de l'Antiquité tardive, donc ça place le Coran et son message dans un contexte qui est très loin du paganisme arabe auquel nous sommes habitués par l'apologétique musulmane, et qui ne correspond pas à la réalité historique.
كم دزك وادت اللي راهم فاز يرمض لعند الجنة يرمض لعند الجنة يرمض لعند الجنة وند الموز لدغدا دغنسا جرفز وند الموز لدغدا دغنسا لدغدا دغنسا لدغدا دغنسا جرلات ولارت ودي السنكر ضود وجو فزقنا وانت واد رجلا
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons d'islamologie fondamentale, la mise sous examen de l'islam, ou l'islam et l'examen scientifique plus exactement, avec Mohamed Ali Amir Moïsi, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et président du conseil scientifique de l'Institut français d'islamologie. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, cher Mohamed Ali Amir Moïsi. J'ai failli réagir tout de suite sur la gentilité arabe ou le paganisme arabe tel qu'il était présenté par la doxa droite connue. En réalité, la période anté-islamique, ou juste avant la révélation coranique, n'est pas le temps de l'obscurantisme ou de l'ignorance telle que c'est proclamé. En réalité, il y a une effervescence. En tout cas, il y avait une vie à la fois religieuse et une production sociale, culturelle et intellectuelle, ne serait-ce que dans la partie occidentale de la péninsule arabique.
Et ailleurs également, mais y compris dans la partie occidentale qui a vu naître effectivement Mahomet et puis le Coran, à mon sens. Alors, c'est ce qui montre justement les découvertes archéologiques et épigraphiques. Et puis, je pense que la preuve absolue de ce que vous venez de dire, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire qu'à côté de quelques rares passages sur les idoles de l'Arabie pré-islamique et sur deux prophètes, ou deux ou trois prophètes proprement arabes, hein, Hud, Saleh, Shuaib, chaque page de Coran, pratiquement, est remplie de données bibliques.
Et d'une manière elliptique, ce qui sous-entend que ce sont des problématiques connues.
Absolument, c'est-à-dire que les données bibliques du Coran sont allusives, et donc, ce qui, comme vous le dites, c'est-à-dire que effectivement, les figures bibliques sont extrêmement présentes, hein, allant de Adam et Ève jusqu'à Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Marie, en passant par Noé, Salomon, David, Abraham, Moïse, des figures extrêmement importantes. Mais là, par exemple, si vous voulez connaître l'histoire d'Abraham par le Coran, vous n'apprendrez rien. Vous avez quelques épisodes de l'histoire d'Abraham ou de l'histoire de Moïse, et en quelque sorte, le Coran les commente. C'est-à-dire qu'effectivement, le Coran appartient à ce monde culturel qui est celui on l'appelle biblique, donc les grands monothéismes, les judaïsmes et les christianismes de cette époque. Alors, à quel courant appartient le Coran, ça, on ne le sait pas. Mais ce qui est absolument certain, c'est l'appartenance à cette tradition qui est la tradition de l'Antiquité tardive, qu'on appelle la tradition biblique.
Cher Mohamed Ali Amir Moïsi, là nous sommes en gros dans l'islamologie fondamentale. Y aurait-il une islamologie appliquée, un peu comme dans certaines disciplines? Et là, je reviens à l'actualité brûlante même. Et donc, il y aurait une sorte d'approche contemporaine par l'islamologie des faits géostratégiques ou de ce qui secoue les sociétés majoritairement musulmanes ou même le fait islamique d'une manière générale.
Je pense que, bon, pour tout ce qui se fait au nom de l'islam depuis quelques décennies surtout, donc appelons-le l'islam politique, l'islam idéologique, voire le djihadisme violent. Alors, il y a bien entendu des raisons et des causes géopolitiques donc liées à l'histoire contemporaine, à l'histoire postcoloniale, à l'histoire des grandes puissances, etc. Bon. Mais je pense que peut-être pour avoir une meilleure compréhension de ce phénomène, c'est toujours extrêmement utile de donner une épaisseur historique à ces phénomènes. Parce que quoi qu'on en dise, alors bien sûr, il est imbécile de dire que l'islam, c'est la violence, c'est la conquête, c'est la volonté de domination. L'islam, c'est l'État islamique, c'est Taliban, c'est Ben Laden, etc. C'est bien sûr imbécile. Mais c'est aussi imbécile de dire que l'État islamique ou les talibans ne sont pas l'islam. Ils font partie de l'islam. Ces mouvements-là ont leurs théologiens et ils s'appuient sur des textes. Et donc, c'est bien sûr, il est indispensable de connaître les fondements, les bases idéologiques, religieuses de ces mouvements pour les comprendre et essayer en quelque sorte de les déconstruire. Et de les déconstruire comment? C'est-à-dire en effectivement les plaçant dans l'histoire. Et je reviens à ces trois questions fondamentales dans l'histoire, dans la géographie et dans la société, dans l'anthropologie. Et je pense que ce qui est important, et ça peut être aussi l'apport intellectuel, je dirais, de l'étude scientifique de l'islam, c'est que ça peut apporter des changements positifs dans le regard que peuvent avoir les musulmans sur leur propre tradition. En quelque sorte, de contextualiser, d'essayer de relativiser, d'introduire une distance critique dans le regard que les musulmans peuvent avoir sur leur propre tradition, mais également peut-être des changements dans le regard que les non-musulmans ont sur les musulmans. Parce que je pense que ce qui est également à prendre en compte, c'est que parfois, à cause de ce qui se passe au nom de l'islam, le regard des non-musulmans devient un peu hostile à l'égard de tous les musulmans. Et c'est ce qui pousse certains de ces musulmans vers une sorte de repli identitaire et vers une sorte de radicalisation. Et je pense que l'apport de l'étude scientifique de l'islam peut également changer ce regard-là, le regard des non-musulmans. Donc nous sommes en Occident, surtout des chrétiens, des croyants ou des juifs, etc., sur l'islam. Et de ne pas regarder l'islam et les musulmans comme des adversaires ou comme des ennemis, mais comme des gens qui font partie et qui ont fait partie de la constitution, en quelque sorte, de la culture ou de la civilisation, avec ses hauts et ses bas, avec ses dimensions lumineuses et ses dimensions obscures.
Ou ténébreuses, oui. Je reviens sur l'idée que le regard a son importance. Dans certains cas, sans vouloir faire de la psychologie de bazar, d'aucuns corroborent le préjugé de par presque réflexe où l'on se recroqueville sur des considérations idéologiques, alors que un regard distancié, froid, sur sa propre tradition, sur la dite identité, aide à décrisper les choses normalement. Et donc, de ce fait, l'application ou les résultats ou les répercussions de la recherche en islamologie et cette mise sous l'examen scientifique et critique aide à cela pour les musulmans et les non-musulmans.
En tout cas, on peut l'espérer. Et c'est, je pense, c'est également peut être l'objectif intellectuel des chercheurs en islamologie. Je pense ce qu'il faut également souligner, c'est que les musulmans ne doivent pas considérer que l'introduction de l'histoire dans l'étude de leur religion est une menace pour leur foi. Ce n'est pas le cas. J'ai fait des présentations innombrables, par exemple, de mes différents travaux, et en particulier du Coran des historiens ou du dictionnaire du Coran, et j'ai eu des discussions extrêmement intéressantes avec des musulmans croyants et croyantes, des hommes et des femmes. Et nous avons, à un moment donné, nous arrivons à cette question. Est-ce que le regard historique, le regard anthropologique, le regard islamologique, donc, ne met pas en danger la foi des croyants? Et en toute modestie, je crois que non. Je crois que non. Et pour cela, j'ai toujours recours à des exemples tirés de quelques grands penseur de l'islam lui-même. Je donne l'exemple du grand mystique Ibn Arabi et du grand théologien Razali. Tous les deux, de manière différente, font une distinction entre la foi, iman, en arabe, et la croyance, aqida, en arabe. Et en résumé, ce qu'ils disent, Ibn Arabi dans les gemmes de la sagesse, dans le Fusus al-Hikam, et Razali dans la revivification des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin, ils disent que la foi, c'est quelque chose de mystérieux, qui vient du tréfonds de l'être.
Et qui relève de la conscience émotive.
Oui, c'est presque quelque chose comme l'amour. Et donc, la foi concerne des choses essentielles, qui viennent du tréfonds de l'être. Et donc, la foi ne peut pas être ébranlée par des choses accessoires. Et à côté de la foi, nous avons des croyances qui concerne des choses accessoires, qui ne dépend pas du tréfonds de l'être, mais du contexte, de l'éducation, des parents, de la société, de la culture, etc. Et ces deux penseurs disent que parfois il y a des croyances qui affaiblissent et qui polluent la foi. Et donc pour consolider la foi, parfois il faut se débarrasser d'un certain nombre de croyances. Et moi, je pense que, justement, cette approche islamologique, comme vous l'avez dit très bien, distanciée, respectueux et en même temps froid, peut mettre en question un certain nombre de croyances des choses accessoires et ne peuvent pas mettre en question des choses essentielles. Et donc, de ce point de vue-là, l'islamologie peut même parfois aider à consolider la foi.
Et le même Ibn Arabi, docteur Maximus, 1165-1240, disait « Méfiez-vous du Dieu créé dans les dogmes ».
Exactement.
Alors ceci m'amène à quelque chose d'un peu plus contemporain et relevant encore une fois de l'actualité brûlante. Les phénomènes de sécularisation, y compris dans les sociétés majoritairement musulmanes, ont un double effet. Vous avez évoqué vous-même, mais ceci est valable quel que soit le milieu et à travers l'histoire, la politisation du divin, la divinisation du pouvoir. D'aucuns vont jusqu'à dire, en réalité, il n'y a pas de Dieu, il n'y a que des hommes qui attribuent à Dieu comme quoi il est pourvoyeur de la loi. Et au lieu de parler de théocratie, autant parler de nomothéocratie ou théonomocratie, ce sont des lois attribuées à Dieu. Qu'en est-il avec le phénomène ou la sécularisation, les mouvements de sécularisation qui travaillent ces sociétés, avec ce double effet au niveau de l'engagement civique et politique et au niveau de la libéralisation des mœurs? Est-ce que l'islamologie étudie ou en tout cas met en avant ce qui se passe au moins sur ces deux aspects? On ne gouverne plus la cité selon le désir politique de Dieu.
Alors, l'islamologie s'occupe effectivement, c'est-à-dire que mes collègues modernistes et contemporanéistes effectivement s'occupent et étudient ces phénomènes-là dans les sociétés musulmane, moderne et contemporaine. Alors, la sécularisation est un phénomène extrêmement complexe, ou la laïcisation. En un mot, c'est que si on regarde, par exemple, ce qui se passe en Occident, ou peut-être on a essayé d'appliquer également dans les pays musulmans, c'est l'État peut-être qui est séculier et laïque, mais pas la société. Dans la société, surtout à plus forte raison dans les sociétés musulmanes, cette séparation n'est pas faite. Maintenant, le problème, c'est que, et là je reviens également au fondement de l'islamologie, ce qui est peut-être problématique, c'est que quand on ne respecte pas ou on n'applique pas l'histoire aux textes religieux, on veut les appliquer telles quelles à l'époque actuelle. Et c'est ça qui pose problème. Parce que quoi qu'on en dise, ces textes sont des textes anciens, parfois sont des textes archaïques, et quand vous leur donnez un statut absolu et que vous croyez qu'ils sont applicables en tout lieu et en tout temps, c'est-à-dire qu'ils dominent en quelque sorte l'histoire, c'est là que ça pose problème. Alors en tant que tel, ces textes ne posent pas de problème. Ils appartiennent à leur temps, ils appartiennent à leur lieu. Et c'est normal, je ne sais pas, par exemple, on nous parle de la violence que contient le Coran. Oui, le Coran contient de la violence. Dans le Coran n'est pas féministe, hein, le Coran n'est pas démocratique, mais c'est normal, parce que c'est un texte qui date d'il y a à peu près un millénaire et demi. Mais le problème, c'est le regard que nous avons sur ce texte et la façon dont nous voulons le rendre vivant dans nos vies. Est-ce que ces textes-là sont applicables au niveau collectif, au niveau politique en quelque sorte, 1500 ans pratiquement après leur rédaction, ou un peu moins, je pense aussi à des textes médiévaux. Donc, c'est, moi je pense, et je reviens à ce qu'apporte ou peut apporter l'islamologie, ce regard distancié et l'introduction de l'histoire, c'est que la science respecte l'historicité de ces textes-là, mais introduit justement cette dimension qui nous permet une distance critique par rapport à ces textes-là et nous permet de dire que probablement, sur le plan politique, ils ne sont plus applicables, étant donné l'évolution de l'humanité, pas seulement en Occident, mais également dans les pays musulmans. Et ce qui est important aussi est que j'attribue à ce que j'ai appelé la révolution philologique, qui est à la base aussi de l'étude scientifique, pas seulement de l'islam, mais de ce qu'on appelle l'Orient, l'étude du bouddhisme, l'étude de l'hindouisme, l'étude du judaïsme, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'avant, au Moyen-Âge, il y a une sorte de ce que je pourrais appeler l'autocentrisme. C'est-à-dire que les musulmans regardent les chrétiens à partir de leurs propres textes, donc avec un regard plutôt hostile, avec un regard polémique. Et c'est la même chose du côté chrétien. Les chrétiens perçoivent le musulman à travers leurs propres textes, leurs propres dogmes, hostiles, polémiques, etc. Et la même chose pour les juifs et les chrétiens qui regardent les autres. Donc cet autocentrisme empêche regarder l'autre dans son altérité et dans la profondeur de son altérité. Ce qui arrive avec la philologie, qui est aussi le résultat d'une évolution historique, les derniers exégèses bibliques du Moyen-Âge, l'humanisme, la Renaissance, c'est justement la découverte de l'histoire, des langues, de la diversité. Et donc, la naissance de l'intérêt pour l'autre dans son altérité. C'est-à-dire, on va découvrir ce que disent les musulmans au sujet des musulmans, ce que disent les textes musulmans, ce que disent les textes hindous au sujet des hindous, etc. Les textes bouddhiques aussi, au sujet des bouddhistes. Et donc, la philologie, contrairement à ce qui est dit maintenant, actuellement, quand on qualifie la philologie comme une discipline colonialiste, qui est, à mon avis, une exagération et une idéologisation des choses, la philologie a permis l'altérité, c'est-à-dire a peu à peu mis fin à cet autocentrisme, et donc qui a permis la découverte de l'autre. Alors, effectivement, peut-être que là, la philologie doit faire également sa percée parmi les intellectuels, parmi les savants musulmans, pour découvrir l'autre dans son altérité, et non pas regarder l'autre à partir de ses propres textes. Là, c'est une révolution qui reste à faire, je pense, dans les sociétés musulmanes.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et aujourd'hui, nous parlons d'islamologie, d'islamologie fondamentale, de l'islam et l'examen scientifique, l'approche rigoureuse, froide, distanciée du fait islamique, avec le professeur Mohamed Ali Amir Moïsi, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et président du conseil scientifique de l'Institut français d'islamologie. Pour cette dernière partie, Mohamed Ali Amir Moïsi, en vous écoutant vraiment avec intérêt, et surtout pour le dernier point, la question de l'altérité, ceci m'emmène à vous poser la question, toujours dans le cadre de, peut-être avec vos collègues contemporanéistes ou s'intéressant à l'islamologie appliquée, j'ai cru comprendre qu'il y a quatre grands chantiers de réflexion, de recherche et de travaux généraux. Ce sont des chantiers fondamentaux. Le premier, c'est essayer à la fois de comprendre, mais aussi pour dirimer, pour fondre les thèses radicales et surtout l'obscurantisme et l'approche passéiste des choses qui pourraient être incarnées, vous l'avez dit, par les talibans. Le deuxième chantier est celui de la violence sacralisée et du djihadisme maintenant, et qui pourrait être incarné par la monstruosité idéologique et religieuse que pourrait être l'organisation terroriste État islamique. Le troisième point, c'est les réflexions qui se font cette fois-ci dans les contextes islamiques, considérant que le modèle occidental est un modèle exogène et qu'on ne pourrait pas l'appliquer, ou du moins il faut peut-être l'aménager. Et le dernier point, c'est le chantier tout aussi important et fondamental de la qualification de l'altérité et du regard sur autrui. Et cette révolution, d'abord révolution, puis une révolution philologique, c'est exhaustif ou c'est encore d'autres points pour l'islamologie appliquée afin de comprendre ce qui se passe dans les sociétés musulmanes ou avec le fait islamique d'une manière générale?
Alors, je pense effectivement que les quatre points que vous soulignez sont extrêmement pertinents. Et effectivement, mes collègues modernistes et contemporanistes s'en occupent. Alors, je pense aussi que le chercheur en islam doit éviter peut-être aussi de tomber dans les pièges de l'actualité. Parce que, effectivement, l'actualité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est brûlante. Mais quand même, quand on parle de distance, il faut que le chercheur garde aussi sa distance critique par rapport, effectivement, à cette, je dirais, nature de plus en plus tragique. C'est vrai, sur le plan humain, on peut sentir la tragédie, la douleur, le drame de ce qui se passe actuellement. Mais en même temps, il faut éviter d'articuler en quelque sorte ses recherches, ses études, avec la tragédie de l'actualité. Donc il doit garder son... Et je pense que ce qui est également intéressant, c'est même indispensable, c'est d'essayer de pouvoir restituer, de mettre en perspective ce qui se passe. Alors, évidemment... Ça fait partie de l'islam, mais en même temps, tout ne s'explique pas par l'islam. Parfois, des choses s'expliquent par des données géopolitiques, par l'influence, je veux dire, des grandes puissances, des marchands d'armes, des centres financiers du monde qui sont en dehors du monde musulman et qui provoquent parfois des crises, voire des guerres. Mais je pense, en ce qui concerne, quand on parle de l'islam contemporain, moderne et contemporain, alors, c'est significatif. On pense tout de suite à ces aspects politiques et à ces aspects violents. Mais il y a des aspects qui sont extrêmement contemporains et extrêmement vivants dans l'islam, dont on ne parle pas. Par exemple, c'est la spiritualité. Je pense à quelque chose comme le soufisme, c'est-à-dire la mystique de forme confrérique, qui est extrêmement vivante, extrêmement populaire. Les membres des confréries mystiques, si vous allez de la Mauritanie jusqu'en Indonésie, se comptent par dizaines de millions, si ce n'est plus. On n'a pas de statistiques exactes, mais quand même j'ai étudié un peu le phénomène. Le soufisme est quelque chose qui reste extrêmement vivant, et donc, par exemple, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire cette dimension intérieure de l'islam, qui concerne justement beaucoup plus la foi que les croyances, qui donne un sens, véritablement, à la vie de ces fidèles, et qui est extrêmement populaire et extrêmement vivant, et dont on ne parle pas. Alors, c'est peut-être il s'agit là d'une sorte de majorité silencieuse, mais quand même, il ne faut pas oublier cette dimension-là. Parfois, j'ai l'impression, surtout ici en Occident, beaucoup plus que dans les pays musulmans eux-mêmes, que même les musulmans ont tendance à oublier ces aspects-là et qui font toute, la profondeur de la culture et de la civilisation islamique. Et là, ce qui va avec peut-être aussi cette spiritualité, quelque chose comme l'art, ce qu'on voit, l'art qui est également vécu, quand vous voyez, c'est-à-dire le rôle que peuvent avoir l'architecture, la calligraphie, les différents arts de l'islam, ou dans le soufisme, la musique, le chant, tous ces aspects-là sont extrêmement vivants et sont justement combattus également par un certain islam politique.
Oui, et ce que d'aucuns veulent résumer d'un point de vue à la fois spirituel et éthique, la révélation coranique comme étant « dit, je crois en Dieu et sois droit ». Merci infiniment, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, cher professeur. Merci, Mohamed Ali Amir Mouaizi. Chers amis auditeurs, c'était question d'islam et aujourd'hui nous avons parlé d'islamologie fondamentale et appliquée. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manon Houssin et la réalisation par Sam Bakiast.